Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Je choisis une femme en prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.
Qu'est-ce qui se cache sous le vernis des bonnes convenances quand deux couples bourgeois s'expliquent autour d'une altercation ayant opposé leurs fils respectifs ? L'un, Zachary, a fichu un coup de bâton à Ethan en plein parc de Times Square et voilà donc le moment de décrire ce qui s'est passé.
Suite à une altercation verbale, Zachary Cowan, âgé de 11 ans et armé d'un bâton...
Armé ?
Michael, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va ?
Muni, d'accord.
Muni d'un bâton. Ils sont gentils.
Ils sont gentils ?
Oui, très.
Oh ça oui, très très gentil. On sent bien une légère tension, mais rien d'alarmant au début. Mais plus les discussions avancent dans cet appartement new-yorkais confortable, plus les langues se délient. Et si les couples peuvent paraître relativement soudés, il en faut peu passer un cap pour qu'ils ne volent en éclats. Le coup de bâton des fistons renvoie leurs parents dans les cordes et il ne restera plus que des individus qui s'opposeront, s'allieront au gré des propos et des péripéties de cet après-midi qui aurait pu être tranquille.
Vous savez, je me posais la question et je sais que ça n'a aucune importance, mais... Est-ce qu'il vous a dit à quel propos ils se sont disputés parce que Ethan reste muet là-dessus ?
Ethan refusait que Zachary fasse partie de sa bande.
C'est quoi cette histoire ?
Et il l'a traité de cafteur.
Tu savais que Ethan avait une bande ?
Non ! Mais je suis ravi de le découvrir.
Pourquoi tu es ravi ?
Moi aussi j'en avais une, j'étais le leader.
Oui, moi aussi.
Et il fait quoi, le leader d'une bande ?
Tu sais, tu as 5 ou 6 gars qui te tournent autour, qui t'apprécient, qui sont prêts à se sacrifier pour toi. C'est comme dans Ivanhoe.
Exactement, oui, Ivanhoe.
Aujourd'hui, personne ne connaît Ivanhoe.
Ils doivent avoir un autre héros, genre Spider-Man, ou allez savoir.
En tout cas, vous semblez en savoir plus que nous. On dirait que Zachary n'est pas resté aussi silencieux que vous le disiez. Et pourquoi Ethan l'a-t-il traité de cafteur ? Non, c'est idiot. C'est une question stupide. À quoi bon ? On s'en fiche.
Nous n'allons surtout pas tenter de dénouer ces querelles d'enfants.
Ce ne sont pas nos affaires.
Voilà.
En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce malheureux incident. La violence, c'est notre affaire.
À l'époque, quand j'étais leader, j'avais battu une brute, Jimmy Leach. Un combat singulier, il était plus fort que moi.
Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, Michael ?
Rien, rien du tout.
C'était pas un combat ! Ces gamins ne se sont pas battus !
Je sais, je me rappelais quelque chose.
Ce n'est pas si différent.
Oh, excusez-moi, il me semble que c'est différent.
Très différent.
Il y a une grosse différence.
C'est quoi la différence ?
Eh bien, on avait décidé tous les deux de se battre.
Vous l'avez beaucoup amoché ?
Oui, un peu.
Bon, assez avec Jimmy Leach.
Voilà, hein, y a de la parlotte. Alors, adapté d'une pièce de Yasmina Reza intitulée « Le dieu du carnage », Polanski ne prenait pas grand risque à adapter cette pièce multiprimée, comme il ne prenait pas grand risque non plus avec le casting, puisqu'on retrouve Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, et le seul qui n'est pas d'Oscar, John C. Reilly. Alors autant le dire, le film tient aussi beaucoup donc, à ce casting, chacun opère un glissement. Jodie Foster, concernée moralement au plus haut point par la baston des fistons, sans ses nerfs la lâcher. La douceur apparente de Kate Winslet ne tarde pas à nous laisser entrevoir une ombre de rage. Le mari de Jodie Foster, bonne patte, s'il semble suivre les recommandations morales de sa compagne, a pourtant quelques mauvais forfaits à se reprocher. Il n'y a guère que le personnage de Christoph Waltz, avocat américain dans toute sa splendeur, qui semble lui particulièrement agacé et surpris d'être enfermé dans ce huis clos à discuter d'une bagarre de gamins, d'autant qu'il doit résoudre une affaire autrement plus importante au téléphone et que tous les moyens sont bons, même les plus grossiers, pour ne pas manquer un appel. Un personnage tout en cynisme qui n'hésite pas à gratter où ça fait mal en oubliant les convenances. Le plus délicat, sans doute, pour les acteurs a été de tenir le rythme du huis clos, qui commence piano et qui finit sur les chapeaux de roue. Mais l'exercice est réussi. On reste quasi exclusivement dans une seule pièce, le salon, et on n'en éprouve aucun ennui, d'autant que le film ménage quelques surprises. C'est sans doute une parenthèse hein, dans l'œuvre de Roman Polanski, comparé à son Rosemary's Baby, son pianiste ou The Ghostwriter. Mais quand on regarde Carnage, l'exercice de style est plaisant. Et donc, ce film, Carnage, sort aujourd'hui sur les écrans et à peu près tous les écrans.
Cinextenso.
Est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
On reste dans une ambiance de carnage, mais cette fois-ci au Japon. Alors, au XVIIe siècle, les samouraïs sont victimes de la paix régnant dans le pays, Privés de guerre et de devoirs à accomplir, ils deviennent pauvres et désœuvrés, comble du déshonneur. Poussés par la famine, certains se rendent chez les seigneurs voisins et demandent à se faire publiquement harakiri, suicide rituel qui consiste à s'ouvrir le ventre au sabre et à se vider de ses boyaux devant ses compagnons d'armes. Mais ces samouraïs espèrent en réalité être pris en pitié par le seigneur qui les mettra à son service ou leur donnera de l'argent. Lassé de ces mascarades, un seigneur décide un jour de donner une leçon particulièrement cruelle à un jeune samouraï venu demander son aide, sans se douter que cela provoquera l'engrenage de la vengeance. Harakiri, c'est le remake d'un film de Masaki Kobayashi sorti en 62 et c'est surtout le nouveau film de Takeshi Miike dans un genre très inattendu pour ce réalisateur atypique. Lui qui était connu pour son cinéma extravagant et son habitude à dynamiter les codes de genre semble ici avoir été victime d'une grave crise de classicisme. Avec un film de sabre épuré comme aurait pu le faire Kurosawa, Takeshi Miike délaisse la provocation pour traiter avec toute la froideur possible une brûlante histoire d'honneur et de revanche. Si vous avez l'habitude de regarder vos films en streaming tout en consultant votre page Facebook et en mangeant vos céréales, en bref, si vous êtes quelqu'un de 2011 pour qui tout va vite, vous aurez sans doute besoin d'un temps d'adaptation. Ça tombe bien, le film dure plus de 2 heures et croyez-moi, une fois plongé dans l'univers ralenti et raffiné du Japon médiéval, vous apprécierez le film à sa juste valeur. Véritable hommage aux traditions japonaises, le film étire le temps et l'action à l'infini par une mise en scène tout en beauté formelle. Les acteurs sont véritablement habités et leur jeu intense pallie fort bien au manque de dialogue, la scénographie s'occupant quant à elle de créer une chorégraphie décor assez fascinante. Une telle lenteur pourrait devenir lassante, mais le réalisateur ne tombe que rarement dans le piège de la contemplation. Et dans tous les cas, une mise en scène foutraque n'aurait sans doute pas retranscrit au mieux l'univers rigoureux des samouraïs. Cela peut surprendre de la part d'un réalisateur qui n'est jamais à court d'inspiration en termes de violence graphique. Je pense notamment à Audition, où l'on plantait joyeusement des aiguilles d'acupuncture dans des globes oculaires. Mais il est d'autant plus surprenant de constater que Miike excelle également dans la sobriété. Il n'a néanmoins pas totalement perdu ses bonnes habitudes, et si vous survivez aux 20 premières minutes passablement taciturnes, vous serez récompensé par une scène de harakiri assez sanglante et insoutenable avec bruitage d'intestin arraché en bonus si vous avez tenu jusqu'au bout. Alors harakiri a été sélectionné pour la première fois à Cannes cette année. Pourtant Takeshi Miike n'en est pas à son coup d'essai. Bien qu'il soit venu au cinéma tardivement à partir des années 90, le cinéaste japonais a réalisé en 20 ans une cinquantaine de films. Lorsque des Terrence Malick font un film tous les 7 ans, Takeshi Miike, lui, accouche de plusieurs œuvres par année avec, pour point d'orgue, 2001 et 2002, au cours desquels il réalisera 14 films, ce qui équivaut quand même à environ un film tous les 2 mois. Bien que la plupart de ses œuvres appartiennent au V cinéma, catégorie au Japon qui désigne les films sortant directement en DVD, il a réussi à se faire une place parmi les cinéastes asiatiques qui comptent, comme en témoigne son apparition dans le film Hostel de Eli Roth. Proche du cinéma populaire qu'il a expérimenté en travaillant beaucoup pour la télé à ses débuts, il a également appris les rudiments du 7e art avec les plus grands, puisque ses études de cinéma se sont faites sous la direction, entre autres, de Shoei Imamura, cinéaste palmé à Cannes pour L'Anguille. Il devient par ailleurs son assistant avant de se lancer dans la réalisation et d'obtenir son premier succès avec Les Affranchis de Shinjuku, un film policier qui le promeut découverte de l'année dans son pays. Le film de Yakuza va dans un premier temps devenir son genre de prédilection, avec notamment la trilogie des Dead or Alive. Mais il adaptera également bon nombre de mangas comme Cross Zero, Zebra Man et surtout Ichi the Killer qui dynamite joyeusement les codes du film de super-héros et les limites du bon goût. Sorti en 2001, Ichi the Killer marquera l'arrivée de Miike en Occident, arrivée fracassante puisque les spectateurs du festival de Toronto assisteront à l'avant-première munis d'un sac à vomi remis par la production. Cette année sera déterminante pour le réalisateur qui réalisera des films dans des genres totalement différents, mais toujours teintés d'absurde et d'excès. Ainsi, l'on pourra découvrir entre 2 films où volent les têtes coupées, La Mélodie du Malheur, une opérette gore et loufoque qui entend persuader le spectateur que même si les malheurs pleuvent, chanter résout tout.
なんでこんな死んだ奴らの後始末ばっかりしなきゃいけないんだ。
後には引けないんだ。やるしかない。
お父さん、やるんなら早くしないと。
リチャード佐川です。
ここは来てみなきゃ分かんないって。ほら何個だってこんな気持ちいいじゃないか。ああ
Voilà, c'était la bande-annonce de La Mélodie du Malheur. Donc, c'est une parodie, bien sûr, de La Mélodie du Bonheur, en forme d'hommage également à l'Auberge Rouge de Claude Autant-Lara. Et c'est aussi surréaliste que maîtrisé. Toujours la même année, Takeshi Miike nous offre Visitor Q, un drame familial gentillet dans lequel un père couche avec sa fille, lycéenne et prostituée, pendant que le fils frappe sa mère accro aux antidépresseurs. Le film s'achève dans un tsunami de lait maternel, et le pire c'est que Miike parvient à nous faire croire que tout cela est parfaitement normal. Le réalisateur va également se faire une carrière dans le cinéma d'horreur, démarrer en beauté avec Audition, qui deviendra l'un des films asiatiques cultes de la décennie.
Il fallait pas répondre au téléphone, c'est ça?
C'est ça, non, il fallait mieux pas. Alors le mélange des genres, cher Miike, atteint ici son paroxysme avec une première partie très lente et romantique, propice à rendre la seconde d'autant plus cruelle lorsque l'histoire bascule dans l'onirisme glauque. Ses derniers films notables resteront dans le registre de l'angoisse, comme La Mort en ligne, Trois extrêmes, ou sa contribution à la série Les Maîtres de l'Horreur, qui regroupe les plus grands réalisateurs du genre, contribution qui sera jugée trop choquante pour être diffusée alors qu'il avait quand même comme concurrent les horrifiques Dario Argento ou John Carpenter. Passionné par la violence et le renversement des tabous, Takeshi Miike fait de ses films de véritables terrains d'expérimentation, aussi bien dans la recherche visuelle que dans la transgression. Même si ses films les plus connus sont aussi les plus trash, on oublie qu'à l'instar de son compatriote Takeshi Kitano, il est tout à fait capable de réaliser des films contemplatifs et poétiques, tels que The Bird People in China. Impossible à fixer dans une case, n'en déplaise à notre chère politique de l'auteur, Takeshi Miike poursuit de plus belle sa carrière boulimique et parvient même, avec son nouveau film Harakiri, à devenir enfin sobre, sérieux et nominé à la Palme d'Or. Que l'on se rassure, malgré le virage radical vers le formalisme amorcé avec sa nouvelle création, Miike n'est pas encore devenu un ersatz ennuyeux de Ozu, puisqu'il a déjà 4 projets prêts à sortir pour 2012, d'après des scénarios toujours aussi déjantés, dont son prochain film au titre très métaphysique Ninja Kid.
Cine Extenso.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
13 ans après Las Vegas Parano de Terry Gilliam avec Johnny Depp et Benicio del Toro, voici un autre film sur les expériences limites, toujours adapté de l'œuvre de Hunter S. Thompson, Rome Express. Le titre ne laisse aucune ambiguïté sur l'alcool qui y est bu en quantité dans le film, quoique ça serait mentir de dire qu'il n'y a que du rhum. On y boit aussi de la bière, histoire de redescendre un peu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on y boit beaucoup, donc à peu près comme on y fume, bienvenue dans l'insouciance des années 60. Quoique Porto Rico, où l'action se déroule, si on boit et fume sans relâche, on sent aussi deux mondes qui s'opposent, les Américains plutôt riches et les autochtones plutôt prompts à défiler dans la rue. Le décor est donc paradisiaque, c'est une île perdue dans les Caraïbes avec tout ce qu'il faut de palmiers et de sable blanc, mais contrasté car les Portoricains sont sous la dépendance américaine. Le film ne s'apesantit pas sur la situation géopolitique, non, car Rome Express est avant tout une comédie mêlée à un film d'aventure, le tout en état d'ébriété. C'est l'histoire de Paul Kemp qui, lassé de sa vie new-yorkaise, s'expatrie sur l'île de Porto Rico et se fait engager par un petit journal local, le San Juan Star, et où il s'occupe d'une rubrique absolument insignifiante. Lui qui rêvait de grand journalisme, c'est plutôt raté. Quand on arrive dans ce journal, on se demande bien comment ils peuvent sortir les infos, dirigés par un patron dépassé qui planque sa calvitie sous une moumoute. Le San Juan Star vivote et on le verra, Paul Kemp, interprété par Johnny Depp, aura beaucoup de temps pour ses aventures.
Porto Rico. Je suis venu ici pour trouver une histoire.
Ça s'appelle du journalisme.
Votre CV, hein? Ne soyez pas si nerveux. Je ne vous paierai pas l'hôtel si je ne vous avais pas déjà engagé.
J'y ai trouvé le plus étrange des paradis terrestres.
Ça y est, t'as trouvé?
Un endroit où vos secrets s'affolent.
Ne fixe pas sa moumoute. Wow.
Et le vaudou opère sa magie. Si la boisson ne vous tue pas,
comment peut-on siffler 161 mignonnettes?
Elles n'étaient pas gratuites? Les femmes s'en chargeront.
J'ai cru que vous étiez une sirène.
Je viens du Connecticut.
T'approches pas d'elle, c'est la fiancée de Sanderson. Elle bronze toujours toute nue.
C'est une vraie beauté.
Je ne faisais que regarder le bateau.
Oui, on est tous montés dessus. C'est une merveilleuse expérience.
Ça peut sembler être une folle hallucination. Mais tout est réel. Enfin, je crois.
Cet endroit regorge de fric, Paul. Et ce sont les gens comme moi qui savent se servir.
Ce n'est pas un peu illégal?
Voilà une remarque tout à fait déplacée.
On va clouer ce salopard sur sa porte. J'ai un scoop pour toi. Je vais l'avoir.
T'es malade?
Je parie que tu vas crier avant moi.
Aucun alcool ne peut atteindre 470 degrés.
Ce qu'on fait ne regarde que nous.
Il n'y a plus de siège avant.
Je viens d'avoir une brillante idée.
Elle est naturelle.
Les ingrédients sont là. Il rencontre une femme fatale, épouse d'un homme d'affaires véreux qui, avec quelques acolytes, rêve de transformer une île en paradis pour touristes. Et puis surtout, il se lie d'amitié avec le photographe du journal, personnage sympathique qui aurait bien 30 kilos à perdre et qui conduit une Fiat 500, forcément rikiki. Une auto qui aura toute son importance pour une des séquences hilarantes du film où, pour peu qu'on soit de bonne humeur, on a l'occasion de se taper sur les cuisses. Alcool frelaté, voire expérimental, beuverie, musique caliente, crasse et luxe, course-poursuite, combat de coq et j'en passe. On secoue tous ces ingrédients et on obtient un film qui file vite avec les personnages moteurs qui frisent le coma éthylique lors de quelques scènes bien ficelées. On retrouve le Johnny Depp de Las Vegas Parano, quelques kilos en plus tout de même, et un physique qui, lors de la première séquence, pourra surprendre les nombreuses filles venues voir le beau Johnny. Il y a bien une histoire qui se déroule avec des noceurs et des pourris, et le journaliste téméraire qui doit vaguement choisir entre se taire et sortir une histoire de magouille, mais là n'est pas l'essentiel, il n'y a pas grand sujet. Suspense. L'essentiel est ailleurs, dans l'atmosphère du Puerto Rico des années 60, finement mise en lumière dans les dialogues aussi, qui peuvent être savoureux, et puis dans les scènes de burlesque bien orchestrées. On ne peut que recommander ce Rome Express aux amateurs de comédie délirante avec ce petit soupçon d'aventure éthylique. Voilà, et là aussi, ça passe à peu près partout, en VF ou en VO, selon ce que vous souhaitez.
Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Comme je choisis une femme, en prenant des risques.
Cinextenso.
Non!
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démate la gueule!
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso sur Divergence FM.